Fribourg, métaphysique Père Philippe, le 2 novembre 1982.
C'est un bon semestre d'hiver. Et puis j'explique un peu la situation particulière dans laquelle je me trouve. Vous le savez bien, pour ceux qui me connaissent, ils le savent. Pour les autres, ils ne le savent pas. Mais c'est quand même bon de situer un peu ce cours que nous ferons ensemble. De fait, j'ai donné ma démission comme professeur de philosophie l'année dernière. Donc normalement, je ne devrais plus donner de cours. On m'avait demandé, est-ce que vous désiriez continuer encore? J'ai dit non, parce que je suis trop pris en France. Alors j'avais dit non. Et on a insisté beaucoup, j'ai dit oui, pour avoir simplement 4 heures de cours, puisque le père Saffré donne des cours d'histoire de la philosophie grecque. Alors, ce n'est pas l'idéal du tout. Je comprends très bien pour vous d'avoir 4 heures de métaphysique le même jour. Alors, je ne sais pas ce que vous allez faire à la fin de la journée, n'est-ce pas? Moi, ça m'est égal, personnellement, mais pour vous, ce sera rude. Alors, on va essayer de faire ce qu'on peut, le mieux possible, pour que ça vous soit un peu utile. Parce que c'est pour vous que je le fais. Je sais très bien, normalement, l'année dernière, j'avais commencé, puisque le cours de métaphysique est sur 2 ans, je dis ça aussi pour expliquer pour tout le monde, pour qu'on comprenne, le cours de métaphysique est sur 2 ans, donc on avait commencé une première année l'année dernière, je continue. C'est-à-dire, je suis dans la deuxième année. Mais je résumerai un tout petit peu la position de la métaphysique dans l'ensemble, vous comprenez bien, pour que ceux qui n'ont pas suivi l'année dernière, quand même, profitent un peu. Parce qu'autrement, ça ne servira à rien du tout. Deuxièmement, je précise aussi, parce qu'il faut voir les mœurs dans lesquelles nous travaillons, c'est toujours important ça. Dans un cours, c'est très difficile de faire des mœurs péripatéticiennes. Puisque de fait, on donne le cours et puis les étudiants dorment ou ne dorment pas, les étudiants écoutent ou n'écoutent pas, les étudiants comprennent ou ne comprennent pas, c'est très difficile de voir un signal d'alarme sur les têtes de chacun. N'est-ce pas? Alors, je vous demande tout simplement de noter, pas nécessairement, mais s'il y a des questions qui se posent, de les noter par écrit. Je vois que c'est toujours beaucoup plus efficace. Parce que quand on a quelquefois des réactions spontanées, affectives, et dès qu'on veut les écrire, on se trouve que c'est idiot. C'est très curieux, mais c'est comme ça. Alors, j'aime bien des questions intelligentes. Parce que des questions intelligentes appellent des réponses intelligentes, tandis que des réactions affectives, plus ou moins intelligentes, pour ne pas dire autre chose, des réactions affectives, plus ou moins intelligentes, n'appellent pas de réponse. Maintenant, on veut dire simplement que voulez-vous. Parce que c'est le sujet qui est en cause. Or, au point de vue philosophique, le sujet est très en cause, mais il doit toujours être absorbé par la réalité. Vous comprenez, je ne vais pas vous dire ce qui me semble être la philosophie première. Ça n'aura aucun intérêt. J'essaie de comprendre ce qu'est la philosophie première. Pour moi, et j'espère pour vous. Et pour vous, j'espère. N'est-ce pas? Il faut du temps avant que ce soit philosophie première. Vous savez ce que disait le vieil Aristote? Il disait qu'il fallait 45 ans pour comprendre un peu la métaphysique. Donc, ça met du temps. Autrement dit, la métaphysique, c'est quelque chose, ça ne se lit pas comme le journal La Liberté. C'est La Liberté, on peut la lire même quand on est fatigué, rapidement, n'est-ce pas? Ou bien voir la télévision, ça détend. La métaphysique, je ne dis pas que ça tend, mais la métaphysique, ça demande un effort. C'est de fait, selon toute la tradition philosophique, le sommet de la philosophie. Alors, si c'est le sommet de la philosophie, c'est pas étonnant. Le début de la montagne, ça va encore, mais. Alors là, on voit tout de suite les athlètes. C'est dans les 100 derniers mètres où ils mettent tout leur effort. Parce que c'est là où ils peuvent gratter les autres. Eh bien, c'est la même chose au point de vue philosophique. On va essayer de comprendre la base de la philosophie et puis le sommet. Et si on ne voit pas la base et qu'on ne voit que le sommet, on n'y comprend rien.
Parce qu'alors on tombe dans ce qu'on appelle les idéologies. Alors, on va tout de suite commencer, si vous voulez. Hein. Mais je vous dis ça parce que je crois que c'est quand même important qu'il y ait un dialogue silencieux, si j'ose dire. Mais comme on a quatre cours, n'est-ce pas, je ne demanderai pas mieux que le dernier cours, ou le cours de 2 heures, parce que je vois qu'on a mis 2 heures. Moi, j'avais mis 3 heures, mais ça ne fait rien. On verra ça cet après-midi. Hein. On verra ceux qui viennent à 2 heures, pour voir si on va mettre 2 heures ou 3 heures. Ordinairement, on est un peu plus éveillé à 3 heures qu'à 2 heures. Je sais bien que c'est l'hiver. Alors, l'hiver, ça n'a pas tellement d'importance. Parce que le vieil adage post-chiboum, c'est difficile de spéculer. Après avoir mangé, c'est très difficile de spéculer. On a plutôt envie de dormir. Bon. Alors, mais l'hiver, c'est différent. C'est différent. Parce qu'on carbure un peu d'une autre manière. Alors, c'est un peu différent. Mais ce sera peut-être mieux. On verra. Toujours aujourd'hui, c'est 2 heures. Parce que c'est affiché. Donc, 2 heures à 4 heures. Il faut respecter un règlement. Alors, je respecte ça. Vous avez les salles. Donc, à 11 heures, c'est la salle B. De 2 heures à 4 heures. Donc 2 heures de cours, la salle 3120. Je ne sais pas où elle se trouve. Vous pouvez le dire, vous savez, le locus. Quoi ? Ah, juste devant l'amphicé. Très bien. Vous serez là pour m'indiquer. Pour montrer où ça se trouve. Parce que c'est quand même nécessaire. Parce que autrement, si on cherche pendant une heure où se trouve la salle, ça ne va pas. Alors, vous voyez qu'un cours de philosophie doit se faire dans une certaine confiance, une certaine coopération. Autrement, il n'y a pas de cours possible. S'il n'y a pas une coopération entre le professeur et les étudiants. Alors, cette coopération n'est pas toujours facile parce que la longueur d'onde est un peu difficile, qu'on a tous des idées un peu a priori et qui fait que c'est pas toujours commode. Mais on doit essayer, croyez bien que je fais l'effort, d'écouter vos objections, de les comprendre, parce que je sais qu'elles sont très nombreuses, et que j'essaie de les comprendre pour essayer de situer un peu cette recherche de ce que représente la philosophie première. Alors, je vous ai dit tout à l'heure. Donc, voyez, au point de vue travail commun, notez les questions qui se posent. Je ne dis pas que je répondrai nécessairement à toutes les questions, c'est impossible. Mais les questions importantes, j'essaierai d'y répondre. Et si on peut consacrer le dernier cours à ça, c'est pas un mal du tout, parce que ça nous aide à mieux comprendre. On est un peu libre. Hein. Le dernier cours ou le cours de 2 heures, hein, ça dépend. S'il n'y a pas de questions à 2 heures, je fais un cours. S'il y a des questions à 2 heures, je réponds aux questions. Et s'il y a des questions au dernier cours, ce sera pour 15 jours après. Ils auront le temps de mûrir. Enfin. Alors, je dis tout de suite la différence entre les idéologies et la philosophie. Je crois que c'est très important. C'est une réflexion difficile à faire, parce que c'est une réflexion critique, mais c'est quand même très important. Au fond, on peut dire, quand nous regardons la philosophie occidentale, notre philosophie occidentale, parce que pour l'Orient, ce serait différent. Quoique l'Orient, actuellement, et l'Occident, ça recommence à devenir un peu dans l'unité. Hein. Mais, au fond, il y a quand même deux grands aspects dans notre philosophie occidentale. Il y a une philosophie qui commence par l'inspiration, ou par les idées. Je mets ensemble parce que ça se touche. L'inspiration est source d'idées. Et quand vous vous levez du bon pied, vous avez une bonne inspiration, vous avez des idées. Je suis persuadé que vous avez une idée de la philosophie. Quelle est votre idée de la philosophie? Mais mettez-la, écrivez-la, plutôt que de la laisser, hein, vous voyez, cachée en vous. Vous avez, qu'est-ce que c'est que la philosophie? Vous faites de la philosophie, mais qu'est-ce que c'est? Et vous vous poserez indéfiniment, qu'est-ce que c'est que la philosophie? C'était l'année dernière ou avant, il y avait un étudiant qui avait trouvé une très bonne idée, c'était pas bête du tout, il avait posé à tous les professeurs de philosophie, quel est l'intérêt de la philosophie? Quel est le but de la philosophie? À quoi ça sert la philosophie? Alors il avait eu des questions, des réponses assez différentes parmi les professeurs de philosophie, ce qui permettait de les classer tout de suite. Parce que le professeur de philosophie doit savoir un peu pourquoi il fait de la philosophie. S'il ne le sait pas, c'est ennuyeux. Parce que le cours existe alors en fonction d'une tradition et non pas en fonction d'une réalité profonde. Il y a une philosophie qui commence par l'inspiration et par les idées. Cette philosophie a pu être très grande chez Platon, par exemple. Mais cette philosophie tend à se diminuer et devenir une idéologie. Donc il y a tout un grand courant d'idéologie. Ça, il faut le reconnaître. C'est pas toujours commode, hein. On fait un classement, il faut faire un petit peu attention. Mais il y a les idéologies. Et puis il y a une philosophie qui part de l'expérience. Qu'il s'agisse de l'expérience externe ou de l'expérience interne. Vous voyez un saint Augustin, l'expérience de l'amour. On pourrait très bien dire, on va commencer la philosophie par l'expérience de l'amour. C'est vrai, c'est quand même très important. C'est pas une inspiration. Quand vous aimez, vous ne dites pas que vous êtes inspiré. Vous pouvez devenir, vous pouvez être inspiré parce que vous aimez, mais c'est pas la même chose. Le jour où vous confondez l'amour et l'inspiration, c'est très ennuyeux pour la personne que vous aimez. Normalement, c'est comme ça que ça se passe, parce que c'est très ennuyeux, parce que vous commencez à avoir une espèce d'idée de la personne. Alors vous aimez un idéal. Ça peut aller un certain temps, et puis un beau jour, vous apercevez que l'idéal n'est pas tout à fait conforme à la réalité. Et alors à ce moment-là, c'est la chute verticale. Donc, il y a une philosophie qui commence par l'inspiration avec les idées, une philosophie qui commence par les expériences internes, l'amour, la recherche de la vérité, ça peut très bien être ça. Et puis l'expérience externe, nos sens. Je bute sur quelque chose. J'ai l'expérience du travail. J'ai l'expérience d'un amour d'amitié. On va essayer de comprendre ces choses-là, c'est important à saisir. J'ai l'expérience d'une coopération, ce que je voudrais qu'on fasse un peu comme expérience. Un cours devrait donner l'expérience d'une coopération entre celui qui enseigne et celui qui est enseigné. Il doit y avoir une coopération. S'il n'y a pas de coopération, il n'y a pas de communauté. On est tous les uns à côté des autres, et puis c'est tout. Puis il y a d'autres expériences. La réalité physique que je touche, la réalité du vivant, ainsi de suite. Alors je crois qu'il faut bien comprendre que de fait, c'est vrai qu'il y a comme deux grands types de philosophie. Les idéologies, et surtout aujourd'hui, alors les idéologies ça fait furax, hein, les idéologies et puis la philosophie qui veut partir de la réalité. Les idéologies peuvent avoir un intérêt, hein. C'est pas nul, rien doit être rejeté, parce qu'il y a des personnes géniales qui ont des idéologies. Les idéologies, en ceci de particulier, c'est qu'elles partent d'une idée et qu'elles développent cette idée. Si cette idée est géniale et importante, il y a quelque chose de grand. Mais on ne rejoint jamais l'autre. Ou du moins, on se pose toujours la question, qu'est-ce que c'est que l'autre? Quand vous parlez de votre idée, votre idée, elle existe en vous. Mais je ne l'ai pas moi en moi. Alors vous pouvez me la dire, je peux essayer de la comprendre, mais vous la possédez toujours différemment que moi. Et vous ne me rejoignez pas en tant que je suis une réalité différente. Que vous. Les idéologies, je crois, sont toujours à mesurer le réel en fonction des idées qu'on a. Et je n'accepte du réel que ce qui est conforme à mes idées. C'est pour ça que l'idée devient la mesure de la réalité. La réalité existante, la réalité que tout le monde emploie, vous voyez, la réalité du sens commun. Et au fond, très facilement, on fera la différence entre le sens commun et puis les idées que j'ai. Vous voyez, Brunswick commençait toujours son cours à la Sorbonne de cette manière, je n'ai pas assisté, mais j'ai connu des personnes qui y avaient assisté et qui disaient toujours que Brunswick commençait son cours à la Sorbonne de cette manière-là. Messieurs et mesdames, mettez à la porte votre sens commun, nous allons philosopher. Oui. Intéressant à voir, c'est intéressant comme chose. On voit très bien Brunswick. Brunswick, c'est l'idéologie. Alors mettez à la porte votre sens commun, parce que le sens commun n'a rien à faire avec votre idéologie. Si vous avez acheté des carottes, n'ayez pas l'idéologie de la carotte, parce que c'est très ennuyeux. Vous ne trouverez jamais la carotte idéale. Alors vous ferez toutes, vous irez à droite et à gauche, vous ne trouverez jamais. Donc, le sens commun consiste tout simplement à acheter ses légumes, si on doit acheter des légumes, acheter un meuble, si on doit acheter un meuble, acheter une auto, si on doit acheter une auto, c'est tout. Et puis, vous acceptez de vous adapter à cet outil. Si vous avez suffisamment de fortune, vous pouvez faire votre auto adaptée à votre personne. C'est évident, ça peut se faire. Mais normalement, vous avez l'idéologie de l'auto et vous l'adaptez à vous-même. Normalement, vous savez très bien que votre sens commun consiste à dire « Mais non, j'entre dans le gabarit commun, c'est tout, et puis je m'adapte, c'est pas tout à fait ce qu'il faut. » Les idéologies mesurent le réel, parce qu'elles considèrent que le réel, c'est l'idée. Le vrai réel, c'est l'idée. C'est le réel au sens le plus fort. Et tout le reste doit être relatif à cela, même l'homme. C'est pour ça que je crois qu'on peut dire que les idéologies sont toujours tyranniques. Ça, c'est un jugement de valeur. Hein? Les idéologies sont toujours un peu tyranniques, parce qu'elles relativisent l'homme aux idées. On relativise l'homme aux idées. On met que les idées sont mesure du réel. L'homme lui-même, qui est réel, qui est le sens commun, l'homme, le soldat, hein? Sens commun, c'est bien évident. Alors, c'est relatif aux idées. Tandis que dans la philosophie, alors, je pars ici de la philosophie partant de l'expérience. De l'expérience la plus radicale qui soit, la plus fondamentale qui soit. Donc, l'expérience qui me fait atteindre le réel tangible, le réel visible. Le réel que je peux constater, le donner. Je suis là dans un ordre inverse. J'essaie de comprendre la réalité qui est autour de moi. J'essaie de comprendre ce que c'est que l'homme qui fait de la philosophie. C'est pas la même chose. Vous ne faites pas identification entre philosophie et homme. Vous n'avez jamais rencontré l'homme identique à la philosophie. Jamais rencontré ça. Et donc, vous cherchez à comprendre ce que c'est que l'homme, l'au-delà de la philosophie. Vous voyez, il y a deux mouvements tout à fait différents. Et je crois que pratiquement, toujours, on se ramène à ces doubles mouvements. La philosophie du même, la philosophie de l'autre. C'est les deux grands mouvements. La philosophie du même, la philosophie de l'autre. Alors il faut savoir, hein, est-ce qu'on va opter a priori la philosophie de l'autre contre la philosophie du même? Ou est-ce qu'on va opter la philosophie du même contre la philosophie de l'autre? Quand je fais de la philosophie, quand je suis dans des idéologies, j'ai conscience de mes idéologies. J'ai conscience de ma philosophie. J'ai conscience de l'orientation que prend ma philosophie et de l'orientation que prend mon idéologie. J'ai conscience de cela. Et donc, je dois pouvoir, dès le point de départ, dire, ah oui, là, je vois très bien, voilà un grand idéologue. La philosophie hegélienne, c'est une idéologie magistrale. C'est peut-être la plus grande des idéologies, je crois. Je crois que c'est la plus grande des idéologies. Si je suis un idéologue, jetons-nous dans Hegel. Parce que ça, c'est un maître. Un maître au point de vue génial de l'idéologie. Si je suis dans une philosophie qui veut atteindre l'autre, alors ici, je vais regarder les anciens. C'est très curieux. On peut presque caractériser les anciens et les modernes. L'autre est le même. Je ne sais pas si c'est un progrès dans la philosophie, mais trouverait-il que c'est une constatation. C'est pas si Hegel est l'Aristote de notre monde d'aujourd'hui, comme ça a été dit et comme on peut le dire, c'est très juste de le dire. Si Hegel est l'Aristote de notre monde d'aujourd'hui, on voit que l'Aristote de notre monde d'aujourd'hui, c'est l'idéologie et c'est le même qui absorbe l'autre. Alors que la philosophie réaliste grecque, qui a continué dans le Moyen-Âge, mais chez les théologiens, c'est là le drame, vous voyez. C'est ça le drame, faut bien voir. Hein, c'est que il y a une rupture dans la tradition philosophique occidentale qui n'existe pas du côté de l'Orient. Et ça, peut-être qu'on ne tient pas assez compte de ça. Il y a la philosophie grecque, les sources, comme dit Merleau-Ponty, les sources. Puis, les théologiens, par définition, ne sont pas des sources. Je ne dis pas que ce sont des puits, mais ce ne sont pas des sources, par définition. Parce que les théologiens, nécessairement, ne font pas œuvre de philosophie en tant que théologiens. Ils partent de la foi et utilisent la philosophie. Et c'est très vrai, quand je regarde les différents théologiens du Moyen-Âge, je vois que c'est l'utilisation de la philosophie. Ils utilisent la philosophie. Ils utilisent diverses philosophies. Le stoïcisme, l'épicurisme, pas beaucoup de théologiens ont étudié l'épicurisme. Enfin, à la rigueur, aujourd'hui, ils pourraient le faire. On verrait, les théologiens utiliseraient l'épicurisme pour essayer de donner une nouvelle théologie du plaisir et du bonheur. Ça serait très joli. N'est-ce pas? Ils utilisent Freud, donc il peut y avoir des choses comme ça. Bon, on peut utiliser Aristote, on peut utiliser Platon, on peut utiliser Plotin. On a utilisé des philosophies grecques, mais ils ne sont pas du tout donnés comme des philosophes. Parmi ces théologiens, il y a quelques philosophes, Boès. Boès est un commentateur, on ne peut pas dire que Boès est un grand, grand philosophe. C'est un commentateur, un traducteur, un homme qui avant tout a le souci d'interpréter le passage du grec au latin. C'est ça le grand souci. C'est très intéressant, mais c'est parce que c'est une charnière. Mais on ne peut pas dire que c'est un philosophe et un grand philosophe. Et puis à un moment donné, la philosophie a voulu redécouvrir sa propre source. Alors, elle s'est construite en opposition vis-à-vis des théologiens. Elle s'est construite à partir de ce fond des théologiens. Et c'est à partir de ce moment-là que les idéologies sont nées. C'est très curieux, ça. Et ça, c'est très intéressant de voir que la philosophie naissant en opposition vis-à-vis de la théologie, en opposition, vous voyez, un Descartes, prenez. Parce qu'un Descartes, on peut pas nier que ses grands-pères étaient théologiens. Et même ses pères étaient théologiens. Mais alors, il avait une autre source qui était en dehors de la théologie. Les mathématiques. Les mathématiques étaient libres. Roses mathématiques. Elles étaient libres, n'ont jamais été annexées. Oui, elles ont un peu annexé à certaines pensées religieuses, à certaines pensées théologiques, mais pas tellement. C'est beaucoup plus la logique qui est annexée que les mathématiques comme telles. Et alors on voit très bien qu'à l'égard des mathématiques, Descartes trouve un terrain neutre qui n'est pas théologique. Et alors il va essayer de voir comment, au fond, il peut y avoir peut-être un lien entre mathématiques et philosophie. Et là, on va découvrir une première pensée qui, je crois, est une idéologie. Je crois que Descartes, c'est le premier des idéologues. C'est le premier qui commence par le cogito. Alors vous allez me dire, il n'y a pas d'idée dans le cogito. Oui, regardez bien, il y a des idées innées. et vous découvrez l'idée innée d'infini, qui est l'idée la plus fondamentale. Et si je ne saisis pas ça, je ne saisis rien des cas. Et tout est commandé par cette idée d'infini. À côté de l'idée d'infini, il y aura la liberté, et ainsi de suite. Mais au fond, c'est très curieux de voir qu'une philosophie qui va naître en opposition vis-à-vis des théologiens va de fait se réaliser en idéologie. Pourquoi ? Parce qu'on cherche non plus la vérité, mais la certitude. Alors là, il y a toute une orientation nouvelle. Descartes cherche la certitude. Alors où est-ce que la certitude est la plus grande ? Soyez lucide. Où la certitude est la plus grande ? Dans vos idées. C'est bien évident. J'ai la certitude de penser. Que j'ai un voisin ou une voisine, j'en suis pas absolument sûr. Hein. C'est le bon sens commun qui me dit ça. Laissons à côté le sens commun et revenons à notre certitude intérieure, mon idée. Je pense. Oui. La philosophie, au point de départ, recherche la vérité. À un moment donné, elle est peut-être fatiguée des théologiens. Les théologiens ont peut-être trop dit qu'ils avaient la vérité. C'est peut-être ça. C'est le défaut mignon des théologiens, vous savez bien. Ils sont tellement contents d'avoir la foi, de dire « alors j'ai la vérité, c'est moi qui ai la vérité ». Alors on est fatigué au bout d'un certain temps. C'est vrai, quand vous êtes en face de quelqu'un qui ne cesse d'affirmer la vérité, qui a un sens dogmatique très poussé, vous prenez l'attitude juste inverse. Et alors vous voulez vous libérer de ça. Je veux partir non plus, moi je veux chercher la vérité, ils savent trop bien. Je vais chercher la certitude. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Vous voyez, procédé d'humilité de la philosophie, qui à ce moment-là se replie sur elle-même en disant, mais oui, j'ai cherché la certitude, oui, c'est la seule chose que je cherche. Et c'est vrai, quand vous regardez attentivement, Descartes a joué un rôle beaucoup plus important qu'on ne pense. C'est très bien que d'autres diront, parce qu'il y aura toujours un point de vue français, un point de vue allemand, un point de vue grec, un point de vue différent. Alors, même le nationalisme se fourre en philosophie. Ce qui est une erreur prodigieuse, parce qu'alors à ce moment-là, c'est plus la philosophie, mais il ne faut pas être nationaliste au point de vue philosophique. On cherche ce que c'est que l'homme, au sens plénier, ce que c'est que l'homme. Et alors, au-delà de toutes les frontières, hein, c'est la grandeur des stoïciens qui avaient dit « le philosophe, c'est le citoyen du monde ». Et c'est vrai, c'est une très belle définition du philosophe. C'est le citoyen du monde. Je ne dis pas que c'est à l'ONU ou la philosophie la plus parfaite, mais c'est quand même le philosophe, c'est le citoyen du monde. C'est celui qui cherche à être au-delà des a priori de chaque pays, des a priori affectifs, des a priori politiques, qui sont les a priori les plus difficiles à dépasser, parce que c'est très très enraciné en nous. C'est très curieux de voir Descartes, Kant, Hegel. C'est vrai que je crois qu'on ne pourrait pas comprendre Hegel sans regarder Kant, on ne peut pas comprendre Kant sans regarder, d'une certaine manière, Descartes. Et vous voyez, on retrouve le terrain, c'est ça qui est intéressant à voir, la zone qui n'a pas été atteinte par la théologie. La zone vierge, les mathématiques, la physique moderne, et une fois qu'on a été jusque-là dans Kant, et qu'on ne voit plus que l'aspect de la critique, il y a un rebondissement de jeunesse avec Hegel. C'est un rebondissement, Hegel. Hegel ne s'appuie pas sur les mathématiques. Hegel ne s'appuie pas sur la physique. Hegel s'appuie sur quoi ? Il s'appuie sur son idée. Il s'appuie sur le processus dialectique de sa pensée. Et le processus dialectique de sa pensée, c'est sa pensée. Et alors, à partir de l'hégélianisme, il y a un éclatement dans tous les sens. Vous voyez, comme un petit peu à partir de Aristote, il y a un éclatement dans tous les sens. C'est très curieux, il y a des choses analogues. Hein. C'est intéressant à voir, ça. Parce que c'est le fond, il faut avoir toujours un fond philosophique devant nous, Nous faisons de la philosophie à notre époque, hein. Et nous faisons de la philosophie en sachant très bien qu'il y a eu tous ces mouvements. Et c'est vrai qu'à partir de Hegel, vous avez un éclatement dans tous les sens. C'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile à partir de là de bien saisir une philosophie une idéologie et une philosophie de l'autre. Parce que pratiquement, tout va partir dans des sens multiples et divers. Mais si vous êtes attentif, vous voyez qu'à partir de l'hégélianisme, il y a quand même des grandes idéologies qui vont naître. Étienne Borde aime de dire que toutes les idéologies, après Hegel, partent justement dans tous les sens, parce que Hegel a poussé l'idéologie à son point extrême. Et vous avez un retour à l'expérience dans l'existentialisme, ça c'est sûr, un retour à l'expérience. L'existentialisme a été vraiment une réaction très, j'allais dire, saine en face des idéologies pour redécouvrir l'expérience de la réalité. Alors, ça n'a pas abouti à une métaphysique, ça n'a pas abouti à une philosophie, mais ça aboutit quand même à quelque chose d'intéressant. Alors, il faut essayer de comprendre pratiquement que en nous, dans la mesure où nous aimons la philosophie, il y a toujours la tentation de l'idéologie. Permanente. Je crois qu'elle ne mourra qu'à la fin, après nous. La tentation de l'idéologie. Tellement agréable de faire une idéologie. Vous comprenez, l'idéologie permet d'avoir un système. Égal à un système. Alors que si vous êtes une philosophie de la réalité, vous n'avez pas de système. C'est pour ça que je crois qu'il y a deux grandes formes de pensée. Une qui naît à l'intérieur de l'idéologie, qui sera une pensée dialectique, et l'autre qui naît à partir de la constatation de la réalité extérieure, qui sera une pensée analogique. Et on voit bien. Alors il y a des mixtures, hein, mais... Autant que possible, il faut être limpide et pur en philosophie. C'est une des qualités de l'intelligence, la limpidité. Braunschweig l'a très bien dit. Hein. Et c'est pour ça qu'il aimait les mathématiques, parce que les mathématiques étaient limpides et pures. Alors il les aimait. Et qu'il fallait avoir cette lucidité parfaite pour justement vraiment être dans la philosophie. Et je crois qu'il faut aller jusque-là. Alors, vous allez me dire, maintenant, qu'est-ce qu'on va opter ? Que de fait il y a les deux. Si je cherche la vérité, j'opte tout de suite pour une philosophie, réaliste de l'expérience. Si j'opte pour la certitude, j'opte immédiatement pour une idéologie. Il faut savoir ce qu'on fait. C'est net. J'en suis très conscient. D'un côté, on cherche la vérité, de l'autre côté, on cherche la certitude. Ça va très loin, ça, vous savez, c'est deux options très très profondes. Mais j'ajoute, hein, puisque j'opte pour la vérité, donc j'ai du bon bout. Et j'en suis conscient, je suis un citoyen philosophique conscient et organisé, n'est-ce pas ? Donc, qui a le droit de voter. Alors, par fait, je dis que si je prends la philosophie réaliste, à partir de l'expérience, je cherche la vérité, je peux assumer l'idéologie en critique, tandis que l'idéologie ne peut pas assumer l'autre. Donc là, j'ai une supériorité stratégique merveilleuse. Et c'est très important de comprendre ça. J'ai une supériorité stratégique merveilleuse. Puisque je peux, en prenant la philosophie réaliste, la philosophie de l'expérience, la philosophie qui cherche la vérité, je peux très bien assumer les idéologies. C'est pas bête les idéologies, c'est même très intelligent. Je dis, attention, c'est l'intelligence qui se replie sur elle-même. Le serpent qui meurt sa queue. Il mord sa queue, il se replie, c'est le cercle. Alors ça, c'est la critique. Dans la critique, je peux très bien, je peux très bien assumer ce que c'est que l'idéologie. Parce que la critique cherche ce que c'est que les idées. La critique est dans l'intelligibilité, et les idées, c'est l'intelligibilité. Tandis que si vous partez des idéologies, vous ne pouvez jamais rejoindre la philosophie réaliste. Et ça, c'est la première supériorité. Indépendamment de la recherche de la vérité, de la certitude. C'est quand même très important de comprendre ça. Deuxième point, il faut préciser, philosophie de l'expérience. De l'expérience interne, de l'expérience externe. Je dis qu'il faut aller jusqu'à l'expérience externe. Parce que l'expérience externe ne refuse pas l'expérience interne, tandis que l'expérience interne ne rejoint plus l'expérience interne, externe. Ça, c'est assez délicat. Mais je crois qu'on peut assez facilement le comprendre. C'est simplement pour essayer de justifier la position que nous prenons. Vous comprenez ? Parce que c'est quand même important. On doit être lucide, on doit savoir ce qu'on fait. On doit savoir que si on fait de la philosophie, on fait telle philosophie. Petit à petit, du reste, on s'en rend compte. Il faut quand même savoir un tout petit peu. Si vous prenez donc l'expérience externe, c'est l'intelligence liée aux sensations, en passant par l'imagination, nous le savons. L'imagination, elle est partout. L'expérience interne, c'est l'intelligence qui se replie sur elle-même, qui a de son cogito. C'est la même manière, il peut y avoir une expérience de la pensée, je pense. Ou l'intelligence est liée à l'affectivité, à la connaissance affective. Ou l'intelligence est liée à l'imagination, l'intelligence esthétique. Donc vous avez les trois grandes expériences internes. L'expérience de la pensée, l'expérience de l'amour, l'expérience de l'inspiration esthétique, ou de la connaissance esthétique, vous voyez, la connaissance esthétique à la manière de Nietzsche. C'est mon expérience esthétique qui commande tout. Alors, je dis ceci, comprenez bien, si ma philosophie part d'une expérience externe, mon expérience externe ne rejette jamais l'expérience interne, puisque toute expérience interne provient d'une expérience externe. Il y a un ordre. Un, deux. Tandis que si je dis ma philosophie part de l'expérience externe, interne, deux, je ne rejoins plus l'expérience interne. Et je dis ça, c'est le sens commun. Je dis ça avec mépris. C'est le sens commun. Et je fais la philosophie à partir de l'expérience interne. Vous voyez ? Donc, si je comprends que la philosophie doit être une recherche la plus exhaustive qui soit, et je crois que ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Tout le monde est d'accord là-dessus. Un philosophe, il essaie d'aller le plus loin possible qu'il peut aller. Autrement, il n'est pas philosophe. Si on fait de la philosophie, c'est pas pour être spécialiste. Alors, c'est pour ça que dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas comme ça. Parce que, de fait, quand on vous dit, je fais de la philosophie, ah oui, vous avez des idées, très bien. Mais on pourra pas vous utiliser. Je fais de la biologie, je fais de la psychologie, ah très bien, il y a un bureau. Ça, on peut trouver des fonctionnaires là-dessus. Tandis qu'à la philosophie, il n'y a pas de fonctionnaire. Ou bien il aurait fallu alors être à la manière de Platon, je fais de la philosophie pour être roi. Très très bien, si vous dites ça, attention, hein, il y a des chances que ça ne réalise jamais. Alors si ce n'est pas la peine de, dès le début, chercher ça. C'est vrai que la philosophie n'est pas une spécialité. Pourquoi ? Parce qu'elle cherche le tout. C'est vrai, elle cherche le tout. Elle est au-delà des spécialités. Je peux très bien définir la philosophie comme l'au-delà des spécialités. D'une manière, je la définis. Je peux très bien définir la philosophie comme un au-delà des spécialités. Au-delà de la biologie, au-delà de la psychologie, vous voyez, méta-biologique, méta-psychologique, méta, tout ce que vous voulez. C'est un méta. c'est le méta par entre guillemets, donc c'est au-dessus, donc c'est le tout. Ah, c'est pas suffisant, le tout. C'est négatif, ça. Vous définissez la philosophie comme non spécialiste. Donc, en opposition vis-à-vis de tel ou tel caractère particulier. C'est très bien. Une première approche. Mais il faut savoir qu'est-ce que c'est que ce tout. Ce tout, c'est l'homme. C'est l'homme. La philosophie cherche l'homme. La philosophie n'est pas la philosophie de la lune. Même quand c'est la pleine lune. C'est pas ça. La philosophie n'est pas la philosophie du soleil ou des galaxies. Non. C'est la philosophie, c'est la philosophie de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est le tout que je peux atteindre dans sa réalité profonde. Je veux bien définir la philosophie, vous voyez, le tout, l'homme. C'est curieux. Vous savez, quand saint Thomas définit la personne humaine, il dit qu'elle est un tout. C'est intéressant. Alors on passe du tout à la personne. Et on peut dire que le philosophe recherche la personne humaine. Le but de la philosophie, c'est de rechercher ce que c'est que l'homme, en définitive. Alors, savoir si cette philosophie qui recherche l'homme est une anthropologie ou elle doit aller au-delà. Alors, je préciserai ensuite les différents domaines de la philosophie. Mais c'est la philosophie du tout et la philosophie de l'homme. Comment j'atteins l'homme? Comment connaître l'homme? Ah, l'expérience. L'expérience externe, l'expérience interne. Et c'est très vrai. Je connais l'homme par l'expérience interne et l'expérience externe. Les deux. Comment je vais connaître l'homme? Je peux connaître l'homme en tant qu'il travaille. Première définition de l'homme. Homo faber. C'est une très belle définition de l'homme. L'homme travailleur. Je peux connaître l'homme en tant qu'il est capable de faire des liens d'amitié. L'homme ami. Je peux connaître l'homme en tant qu'il est celui qui coopère dans une communauté. L'homme politique. Tout ça, c'est des dimensions de l'homme. Je n'ai pas le droit de les refuser. Je n'ai pas le droit de dire « Ah, ma philosophie ne va pas regarder le travail ». Alors à ce moment-là, vous amputez l'homme. Philosophie bourgeoise. Enfin, j'ai assez d'argent, j'ai besoin de travailler, donc moi je ne fais pas la philosophie du travail. C'est désastreux, parce que la philosophie du travail fait partie de l'homme. L'homme, quand il travaille, il développe quelque chose de lui. L'homme, quand il aime, il développe quelque chose de lui. Et puis alors, je peux aller plus loin, je peux essayer de chercher l'homme dans sa relation vis-à-vis du monde. C'est vrai, je ne peux pas comprendre l'homme si je ne le regarde pas face au monde. Donc, en tant qu'il est une petite poussière au milieu de toutes les autres poussières, mais une poussière très organique, une poussière très organisée, l'homme, alors je regarde la philosophie du corps. Il y a la philosophie du corps. Et la philosophie du corps, vous voyez, alors c'est très cru, la philosophie du corps, si je veux aller jusqu'au bout de la philosophie du corps, je dois regarder la philosophie de la lune. Je dois regarder la philosophie de la, du soleil, je dois regarder la philosophie de l'atmosphère. L'autre jour, c'est un... C'est comme ça de temps en temps. Hein. Un vieux marin, qui toute sa vie a été... À la fin de sa vie, il réfléchit sur le milieu dans lequel nous trouvons l'atmosphère. La philosophie de l'atmosphère. C'est très joli, si vous m'apportez un gros bouquin comme ça. Est-ce que vous ne pourriez pas lire ça? Ça m'intéresserait beaucoup. Parce que je réfléchis beaucoup, il a été dans les sept tellurides, de spécialiser les sept tellurides, vous voyez. Alors il s'intéresse beaucoup de voir un petit peu ce que ça correspond à voir tout ça. Philosophie du corps, du milieu. Les anciens disaient... Le corps humain, il est corruptible, il est en dessous de la lune, sublunaire. C'est ça notre atmosphère, sublunaire. C'est impossible autrement. Donc philosophie du corps, philosophie du vivant. Il faut bien, si je veux connaître l'homme. C'est un vivant. Puis alors je vais en dernier lieu, j'aboutis à dire, mais il y a quelque chose qui est méta-expérience. Si je veux aller jusqu'au bout, il faut toujours aller jusqu'au bout, hein. J'ai l'expérience, vous voyez bien que dans le travail, hein, sont liées l'expérience interne et externe. Très bien. Quand vous travaillez, vous avez conscience de travailler. Et vous travaillez en même temps en faisant pâtir un papier sur lequel vous écrivez. Et je, si vous entendez, si vous avez l'oreille suffisamment subtile, vous entendez le papier gémir. Parce que vous pâtissez quand vous écrivez. Donc, toujours, quand vous travaillez, vous coopérez avec la matière. Donc, il y a toujours deux pôles dans l'expérience du travail. Il y a l'aspect interne, l'expérience interne. C'est vrai, j'ai l'expérience interne du travail. Et puis, il y a l'expérience externe du travail. Par le travail, j'ai l'expérience de la matière. C'est la première expérience que vous avez d'autre. Vous avez l'expérience de la matière. Vous avez l'expérience du papier. C'est bien évident, vous avez l'expérience du papier. Il y a des papiers sur lesquels vous ne pouvez pas écrire. C'est impossible. Mauvais papier, vous dites. Mauvais papier, peut-être très beau papier, mais mauvais papier pour écrire. Mais il est merveilleux, c'est un papier de soie. Merveilleux. Mais pas pour écrire. Vous faites l'expérience de la matière par le travail. Le menuisier fait l'expérience de la matière. Il ne reste pas dans son idéologie. Vous voyez, l'expérience interne et externe, le travail. L'amour d'amitié, c'est la même chose. L'amour d'amitié, vous êtes l'expérience de l'autre, de la personne humaine, de l'autre qui est l'ami. Vous l'aimez, conscience, expérience interne. Mais vous l'aimez, c'est l'autre que vous aimez. Vous ne vous arrêtez pas à l'amour que vous avez de l'autre. Vous essayez de comprendre ce que c'est que l'autre, l'ami. Seconde expérience de l'autre, vous voyez, la matière, l'ami, dans la coopération, vous êtes dans une troisième autre, le bien.